E-Radio, l'invité de la rédaction, Anna Battistella.
Aujourd'hui, je donne les bienvenus à Éric Bouvet, photographe pluriprimé qui a suivi les principaux théâtres de guerre de notre époque. Bonjour Éric.
Bonjour.
Vos photos, apparues sur les journaux les plus prestigieux au monde, ont capturé parmi les autres les funérailles de l'ayatollah Khomeini, la révolte des places Tiananmen, la chute du mur de Berlin, la révolution de Prague, la libération de Nelson Mandela, la crise migratoire en Europe et dernièrement, la guerre en Ukraine. Vous êtes un véritable témoin de l'histoire.
Ah, c'est l'avantage de l'âge.
L'Afghanistan est le pays que vous avez exploré et traversé de longues et larges à plusieurs reprises pendant 30 ans et non pas sans périple. Pourquoi s'engager dans ces pays ?
Quand j'étais au service militaire à l'armée en 1980, l'invasion russe a commencé en Afghanistan. C'était quand même un gros fait d'actualité. Et donc, ça m'a travaillé quand même pas mal durant cette jeunesse. Et ensuite, la guerre a continué. Et du coup, quoique j'ai été assez mature, entre guillemets, où j'avais à peu près 25 ans, là, j'ai pu effectivement aller sur l'Afghanistan 12-13 fois, dont 4-5 fois à l'époque des Russes. Donc, il fallait traverser c'est le pays à pied, été comme hiver. Et puis là, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de GPS et il fallait se débrouiller tout seul, quoi. Donc c'était quand même encore une époque où c'était l'aventure avec un grand A. Et j'y suis allé en 86, 87, 88, 89, 90, jusqu'à un moment où les Russes sont partis. Après, donc, ce qui était intéressant, c'est que j'ai continué à couvrir ce pays et j'ai vu, une fois que les Russes sont partis, les factions rivales, les ethnies se sont déchirées, afghanes se sont déchirées pour le pouvoir. Donc, j'ai vu cette période-là aussi, début des années 90. Et ensuite, j'ai vu l'arrivée des talibans et puis la chute des talibans 2001. Donc après, avec l'arrivée des armées internationales.
Les 30 dernières années ont vu une succession de bouleversements qui n'ont changé que des façades de l'Afghanistan, mais non sa vraie nature. Quelle atmosphère pouvait-on respirer entre les années 80 et 90 ? À quoi ressemblait l'Afghanistan ?
Ça faisait déjà 10 ans que le pays était en guerre. La population a suivi, bien évidemment, ses chefs de guerre, hein, les chefs d'ethnie. Et puis, il est arrivé un moment où, effectivement, à la fin des années 90, ils en ont eu ras-le-bol. Et quand les talibans sont arrivés, ils ont dit « Hop, on va faire le ménage de tout ça. On va prendre le pouvoir, on va remettre le truc à zéro. » Les gens ont pas vu arriver le mal. Ils ont vu arriver un sauvetage, en fait. C'est normal, quand on a presque 20 ans de guerre dans le pays, on a quand même envie d'autre chose. Voilà, c'était un nouveau mouvement libérateur. Bon, il s'est avéré que ça n'a pas été ce que les gens espéraient. Hein.
Et quelle était la perception que les Afghans avaient de vous, un photographe ?
Je suis passé dans les endroits, ils exagèrent, mais ils n'avaient pas vu de blanc, quoi, entre guillemets. C'est une époque, si vous voulez, dans les années 80, où tout le monde ne prenait pas l'avion. C'est une époque, je vais vous donner une idée, c'est que donc c'était des gros Boeing 747. Je trouvais toujours de la place pour m'allonger sur les 5 sièges du milieu. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, tous les avions sont archi-pleins à bord. Donc, il y avait peu de gens qui voyageaient. Puis, il n'y avait pas ce réseau qu'on a aujourd'hui de communication. Il n'y avait pas tous ces médias qui existent aujourd'hui. C'était une aventure de partir à l'autre bout du monde, soit au fin fond de l'Afrique ou en Afghanistan. Tout était extrêmement compliqué pour aller montrer ce qui s'y passait. Parce que, voilà, par les ONG et puis les journalistes, personne d'autre passait rentrer dans le pays. Hein.
Comment se déroule la routine d'un photographe en Afghanistan ?
Ah ben, quand je suis là-bas, si je suis avec un groupe, je n'ai pas le choix. Hein, je me laisse guider. Hein. On doit arriver à un endroit, et quand j'arrive à un endroit, soit il se passe quelque chose, soit je reviens avec rien, ce qui s'est déjà passé. J'imaginais bien qu'il fallait passer incognito, il fallait se déguiser, passer de nuit en courant, traverser les montagnes, de la neige jusqu'aux genoux en hiver, crever de soif l'été en cavalant de nuit, parce que la journée, on était trop visible. Non, non, il fallait trouver les... Ils avaient tous pignon sur rue à Peshawar, au Pakistan.
Comment avez-vous instauré des liens avec les Afghans et vous vous êtes rapporté avec eux ? Avec quels moyens, quelle langue ?
Il faut vivre à leur rythme, hein, c'est toujours pareil. Hein. Partout où on va, il faut se mettre dans le moule. Donc en l'occurrence, là, eux, le temps, ils s'en fichent. Si je partais un mois de chez moi, bon, ça faisait quand même un peu long, hein, de passer un mois dans la montagne, boire du thé. Et eux, comme ils me disaient, de toute façon, on a viré l'Empire anglais. On a viré les Russes, on a viré les Américains, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils savent très bien qu'ils ont l'éternité pour eux. Et puis il y a aussi ce fait de ce rapport qu'ils ont avec la religion, que s'ils meurent au combat, bon ben ils montent comme martyrs au ciel. Il faut s'imaginer quand même que c'est une culture extrêmement éloignée de la nôtre. La religion n'est pas la même non plus. L'éducation, à part dans Kaboul ou dans Djellabad ou Herat, enfin dans les grandes villes, dans les campagnes, c'est quand même minime.
L'être un homme vous a aidé dans votre métier ou il vous a plutôt exclu de certains espaces de vie ?
Après, je peux vous assurer que tout ce que j'ai fait, je pense que si j'avais été une femme, j'en aurais pas fait au moins la moitié. Parce que je me suis trouvé tout seul avec des gens qui n'avaient ni foi ni loi. Et je pense que si j'avais été une femme, ne serait-ce que j'aurais peut-être tout simplement été violée, quoi. Et puis, après, ça marche dans les deux sens. Les hommes, il y a cette espèce de trucs macho, de confraternité masculine, ça fonctionne. Un peu le journalisme à la Kessel, si vous voulez. Donc voilà, tu passes la soirée à la nuit à boire de la vodka avec les gars. Après, t'es frère pour la vie et le lendemain, ils t'emmènent, quoi. Donc je dis pas que les femmes savent pas boire, hein, mais c'est forcément un peu plus compliqué en approche. Ils ont un autre regard. Parce que les gens sont avec qui on va traîner sur des lignes de front ou des pays en guerre, lâchés à eux-mêmes, c'est peut-être une femme a beaucoup plus de risques, c'est toujours plus compliqué. Et en même temps, ça peut être le contraire. Ça peut être effectivement parce qu'ils vont trouver que, putain, cette fille est incroyable, quel courage, oui, il faut l'emmener, enfin bon. Et puis, ils sont contents de voir une femme aussi, hein, ça se passe aussi comme ça, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Mais en tout cas, oui, moi, ce que j'ai fait en partant tout seul, que ce soit au fin fond de la Tchétchénie ou de l'Afghanistan ou dans des pays africains, avec des gens qui étaient avec peu d'éducation, qui étaient des tueurs, enfin bref. Ouais, non, j'aurais été femme, non, je ne serais pas allé, hein, c'est sûr.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le terrain dans votre quotidien en Afghanistan ? Il y a eu des défis auxquels faire face et comment avez-vous géré la peur ?
Oh bah, c'est un pays en guerre, donc vous imaginez bien que les difficultés, déjà, c'est de ne pas se faire tuer et puis ou pas se faire blesser. Et en fait, ce que les gens ne savent pas ou peu, c'est que l'extrémisme s'est développé à ce moment-là. C'était l'installation des mouvements islamistes radicaux. Ben Laden est arrivé là-dedans. Moi, j'ai eu des soucis avec ses troupes et c'était en 87. Et le mouvement qui était donc dans l'est de l'Afghanistan, pas loin de la frontière pakistanaise. Et je suis tombé sur ces gens-là et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir, quoi. Donc le mouvement était déjà bien lié, avait bien commencé ce fondamentalisme. Et d'ailleurs, une fois en 88, je me suis retrouvé avec un groupe des Hazara, donc chiites, qui sont évidemment pas aimés du reste des confessions musulmanes. Hein. On est tombé un soir, en arrivant, on est tombé sur un groupe sunnite qui était beaucoup plus nombreux. Et dedans, d'ailleurs, il y avait un Saoudien qui était là, un Saoudien noir, en grande djellaba blanche, avec la cartouchière autour du torse. C'était un personnage incroyable, quoi. Quand il a su qu'il y avait un étranger qui était dans le groupe, ils ont commencé à nous ennuyer. Et il y a un des gars avec qui j'étais, m'a dit on part vite. Et en fait, on a couru toute la nuit. Et toute la nuit, ils nous ont pourchassés en nous tirant dessus, en courant dans la montagne. Donc oui, c'est un boulot. On ne peut pas vraiment le faire si on n'a pas une bonne résistance physique aussi, ça c'est sûr. Les risques, ils ont toujours existé. On en parlait moins parce qu'on était, un, moins nombreux. Et puis deux, c'était pas médiatisé. Mais ça a toujours existé, les soucis, les problèmes, les journalistes blessés, la difficulté de travailler. Et en même temps, parfois, on est bienvenu. Donc on se sert de nous. Et puis, très souvent, on est malvenu. Parce que, en général, si vous voulez, ce que les gens doivent bien se douter, c'est que la guerre, elle n'est pas propre. Vous assurez que ça torture dans tous les sens, ça fait des exécutions sommaires dans tous les sens, ça pille, ça vole, enfin bref. Et puis, il y a aussi cette étiquette d'espion qu'on a sur la tête. Les gens sont persuadés qu'on va donner des informations. Enfin bon, donc, c'est un métier qui était très compliqué et qu'il est peut-être devenu aussi encore plus.
Parmi les moments extraordinaires que vous avez suivis et les efforts quotidiens pour y arriver, est-ce qu'il y a une chose qui vous a beaucoup frappé de l'Afghanistan ?
Ah, c'était une sale guerre, ça c'est sûr. C'était rude, c'était très sauvage, très très sauvage. Parce que j'ai vu des trucs moches, parce que j'ai vu comment on peut tuer impunément, comment on peut se conduire comme une bête, comment on peut... Je crois en l'humain parce que c'est en période de guerre où effectivement l'humain peut se conduire, devenir un animal, peut se conduire vraiment comme une bête. Et en même temps, c'est pendant les périodes de guerre où l'humanité se révèle, où il y a des gens qui font des choses extraordinaires.
Eric, n'avez-vous jamais eu la sensation d'être au cœur de l'histoire ?
Bah si, bien sûr. Moi, je travaille pour l'histoire, hein. Je suis un serviteur de l'histoire. Je passe les plats à l'histoire. Je fais des photos et à le reste.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.